Eh bien, mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin?
Oui, je sais pas.
Ah, mon petit, je ne te dis que ça.
C'est à moi, je vous dis. C'est à moi, je vous dis. Je vous dis merde. Je vous dis merde. Mais c'est pas ça la question.
Ok, on parle de quoi ici?
De sujets sérieux comme l'école, le travail, le stage, la famille. Mais des sujets qui nous parlent et nous concernent. Car on va aussi parler de nos droits et de nos devoirs. On vous promet, on ne sera pas casse-pieds.
Mais à part nous, qui participe aux jeunes radioactifs?
Ben les jeunes, petits et grands.
Et pour qui?
Les jeunes encore. Grands et petits, malins ou pas, bruxellois ou non. On accepte tout le monde.
Et qui d'autre est présent pour faire notre belle émission?
Radio Panique, bien sûr, sur 105.4, et les associations du secteur de la jeunesse comme InfoJeuneLaeken. Dans tous les cas, toi qui nous écoutes, si tu veux nous aider dans notre projet, contacte-nous à InfoJeuneLaeken au 02 421 71 30.
Mais Julien, comment se déroulent les émissions radio?
On fait une émission par mois, on fait presque toujours du direct, tous les 4e mercredis du mois. De plus, on fait aussi des micro-trottoirs, des reportages, des interviews.
Et pour aujourd'hui, on se met quoi sous la dent?
On va parler d'Evras. Bonjour à nos deux invités. Bonjour Chantal.
Bonjour Julien.
Bonjour Ardita.
Bonjour.
Ardita, on enchaîne direct. Tu travailles sur la thématique de l'Evras dans les écoles secondaires à Bruxelles pour la SBL InfoJeuneLaeken, qui est une association active dans la promotion de la santé affective et sexuelle auprès d'un public de 12 à 25 ans. Et alors à tes côtés, Chantal, ma sœur, qu'on a déjà salué. Alors Chantal, pourrais-tu nous expliquer les grandes missions d'InfoJeuneLaeken?
Ah! En fait, InfoJeuneLaeken est réputé être un centre d'information jeunesse généraliste. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, les jeunes peuvent venir et nous poser toutes les questions qui leur parlent. Ça peut être des questions sur l'école. C'est souvent des questions sur l'école. Plus de 50% des demandes qui nous sont adressées sont de cet ordre-là. Ça peut être des questions sur l'emploi, sur les jobs, sur son code, sur les loisirs. Et ça peut être aussi des questions sur l'Evras. On va y revenir. Et donc, à côté de nos permanences d'accueil, on a un site web, on a des émissions radio et on a plusieurs programmes d'animation dans les écoles, dont le projet sur les pavés l'égalité. Voilà en gros ce que vous pouvez trouver à InfoJeune, et encore peut-être un point qui nous caractérise, c'est qu'on ne se contente pas de donner de l'information de manière individuelle, on essaye aussi de travailler de manière collective et de faire de l'interpellation politique sur les questions qui touchent les jeunes.
Et aujourd'hui, nous allons creuser un peu l'Evras. Ardita, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme Evras?
Oui, bien sûr. Alors l'Evras signifie l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. En fait, il faut savoir que l'Evras est obligatoire en milieu scolaire et c'est donc un décret qui a été signé, il me semble, en 2012. Et donc pour cela, les écoles font appel généralement à des structures extérieures ou des centres de planning familial. Et donc pourquoi? C'est parce que certaines de ces structures possèdent le label Evras en jeunesse. Et donc, nous, à InfoJeune, on possède ce label-ci. Et donc, qu'est-ce que c'est ce label Evras? C'est un dispositif spécifique qui a été mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant aux organismes du secteur jeunesse de s'assurer que la qualité des prestataires d'animation, et de formation Evras. Je ne sais pas si ça a été clair ou pas.
Si.
Oui, ça peut être voilà. Très clair.
Et donc, nous, ici à InfoJeune, nous donnons donc des animations Evras dans les écoles primaires et secondaires de Bruxelles et ses environs.
Et donc, concrètement, ces animations Evras, c'est de la sensibilisation qu'on fait dans les écoles, c'est ça?
Oui, entre autres. La sensibilisation dans l'école fait partie, en fait, des enjeux de l'Evras. Il faut savoir que l'Evras a pour rôle d'accompagner toute personne, et quand je dis bien toute personne, c'est pas que les jeunes, sur le chemin de son épanouissement en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, pour ce faire, l'Evras informe et sensibilise sur divers sujets, tels que le rapport au corps, le consentement, le plaisir et la sexualité. Et donc, personnellement, je pense que l'Evras vient surtout amener un débat autour de sujets qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aborder et qui suscitent souvent de la gêne. Mmh. Et donc, alors que, en fait, on est tous confrontés et à tout âge en tant qu'être humain. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les vras ne se limitent pas seulement à l'éducation sexuelle et, par exemple, à la prévention de dangers que l'on peut encourir si on a eu un rapport dit à risque. Certes, c'est important de le savoir, mais quand on parle de sexualité, ça englobe bien plus que ça. Il y a aussi d'autres dimensions à prendre en compte. Il y a les dimensions relationnelles, affectives, sociales, culturelles, philosophiques aussi et éthiques. Et donc nous, lors de nos animations, par exemple, on va être amené à se questionner sur qu'est-ce qu'un rapport. Et donc au fur et à mesure de la discussion, on va déboucher sur des sujets tels que l'égalité entre les sexes, la lutte contre toute forme de violence, ainsi que des questions de genre et d'orientation sexuelle. Et donc finalement, on se rend compte que les vras vient déconstruire les stéréotypes sexués et elle questionne avant tout notre vision de la société.
T'as parlé d'âge dans ton intervention. Justement, c'est une question qui me vient, que j'ouvre aux deux invités. À partir de quel âge on devrait commencer les vras pour vous? Est-ce qu'on devrait commencer dès le plus jeune âge ou commencer quand on arrive dans une sexualité active? Et vous-même, les animations que vous les faites à des jeunes de quel âge?
Alors, moi, je pense que l'idéal, ce serait de commencer très tôt, dès la maternelle. Ça ne veut pas dire que le message qui sera adressé aux enfants de maternelle sera le même que celui qui sera adressé aux enfants de primaire ou aux enfants de secondaire. Non, bien sûr, le message, il sera calibré en fonction de l'âge. Mais vraiment, moi, ce qui me paraît très important, c'est que les vras, ce ne soit pas tabou. Que ce soit le relationnel, que ce soit le corps, que ce soit l'affectivité, que ce soit la sexualité, toutes ces choses sont importantes et marquent toutes les tranches d'âge de manière différente. Mais c'est important qu'un petit enfant, par exemple, il y a des enfants très jeunes qui se masturbent. Eh bien, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir leur dire que leur corps leur appartient et puis sans doute les inciter à pratiquer la masturbation dans l'intimité de leur chambre ou d'un lieu... dans lequel, oui, effectivement, la dimension d'intimité est protégée. Donc ça, je crois que c'est très important. Et tout à l'heure, Ardita a insisté sur le fait que les vras étaient devenus obligatoires en milieu scolaire. Alors nous, on pratique les vras en milieu scolaire, mais pas que. Hein. On peut pratiquer les vras dans des maisons de jeunes, dans des organisations de jeunesse, dans toute autre structure, dans des AMO, etc., qui le souhaitent. Mais l'obligation en milieu scolaire, cette obligation a été acquise de longue lutte, j'ai envie de dire, parce que certaines écoles ne voulaient pas que ces questions du corps, du plaisir, de l'épanouissement personnel, de la liberté qu'on prend avec soi et avec les autres, soient débattues, soient évoquées, et ils souhaitaient plutôt laisser la sexualité, l'affectivité... à l'arrière-plan et dans une dimension taboue.
Quand tu parles de milieu scolaire, tu comprends la maternelle, le primaire et le secondaire ou...
Alors le secondaire, je suis sûre. Pour le primaire, Ardita, est-ce qu'en primaire, est-ce que c'est déjà obligatoire?
Il me semble que oui. C'est obligatoire en primaire et en secondaire.
D'accord.
Après, la maternelle, je ne pense pas que ça ait été... Non, non, non.
Ok, donc... On est sur des enfants de plus ou moins 6 ans à 18 ans.
Oui.
Enfin, des jeunes plutôt que des enfants.
Mais il y a aussi un enjeu sur qu'est-ce qui est abordé.
Mm-hmm.
Voilà, certains, ils ont envie d'aborder la sexualité de manière totalement édulcorée. Hein. Mm-hmm. En gros, je caricature à peine, mais les enfants se font dans les choux. Ben non, évidemment. Mm-hmm. C'est important d'être porteur d'un discours clair, d'un discours qui n'accepte pas la honte. Mmh. Qui n'intègre pas la honte. Et ça, je crois que c'est déjà un élément important. Puis il y a d'autres valeurs de liberté de choix, que ce soit sur l'orientation sexuelle, que ce soit concernant l'identité sexuelle, que ce soit concernant les pratiques sexuelles, ou encore sur la liberté de prendre de la contraception, la liberté d'avortement. Toutes ces questions sont des questions de valeurs et d'éthique. Et quand on est labellisé Evras, ça veut dire qu'effectivement, on est porteur des valeurs que je viens de développer.
Et donc, ouais. Et moi, je voulais rebondir sur le fait que tu disais que parler d'Evras, est-ce que ça viendrait au moment où l'on rentre dans une sexualité active? Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut savoir que l'on ne rentre pas tous, en fait, dans une sexualité active au même âge.
Mmh.
Et donc, que d'avoir, par exemple, la majorité sexuelle ne veut pas forcément dire que l'on est sexuellement actif. Et donc, il y a aussi, par exemple, des personnes qui font le choix de ne pas avoir de relations sexuelles. Et ce n'est pas pour autant que les vras ne les concernent pas. Donc, au contraire, les vras, pour moi, c'est s'informer, communiquer, poser des questions, enfin, se poser des questions afin de faire ses propres choix, comme le disait Chantal. Et donc, les vras aident à ne pas rester limités dans nos idées préconçues, dans nos peurs ou dans nos doutes concernant la sexualité. Donc, oui, compte tenu de tout ça, pour moi, il est important de parler des vras dès le plus jeune âge. Et donc, déjà, pour que les jeunes acquièrent aussi le vocabulaire adéquat concernant la sexualité. Parce qu'en fait, on s'en rend compte lors de nos animations que les jeunes, en fait, ont du mal à nommer les mots exacts. Et donc, ce serait important ici que justement, ils acquièrent ce vocabulaire pour qu'il n'y ait plus cette gêne à en parler, à ne pas savoir dire les bons mots, parce qu'ils ne l'auront pas appris, ou alors c'est tellement tabou qu'on a vraiment, on a cette peur de dire les bons mots, en fait. Et donc voilà, comme disait Chantal, pour moi, c'est le fait d'en parler dès le plus jeune âge va aussi permettre de normaliser tout simplement ce sujet et aussi de lever le tabou qu'il y a autour de tout ça. Et donc on peut aussi s'imaginer que pour le jeune, c'est aussi plus rassurant d'en parler dans le cadre scolaire avec ses camarades plutôt qu'avec ses propres parents. Parce que même les parents au sein du cadre familial auront des difficultés à en parler. Le fait de faire un bébé, souvent on retrouve le fait que c'est la cigogne qui vient déposer le petit enfant à la porte, ou alors l'histoire de la petite graine, parce que même les parents eux-mêmes n'arrivent pas à dire les bons mots aux enfants.
Le sexe est éludé.
Et oui, ben c'est ça. Mmh. Et donc évidemment qu'après, si ils l'apprennent, on va dire, dans le cadre scolaire, je pense qu'au fur et à mesure, les mentalités vont changer, il y aura plus une ouverture d'esprit. Et donc, je pense qu'ici, dans nos animations à nous, c'est aussi notre rôle en tant qu'animateur d'instaurer aussi un cadre et un climat qui est bienveillant pour qu'on puisse débattre ensemble de, par exemple, le respect de notre propre corps ou de corps de l'autre. Et aussi que tout le monde se sente aussi libre de poser des questions et de ne pas se sentir jugé, en fait, ou alors critiqué. Parce que on a peut-être des bêtes questions.
Oui, je pense que tu as raison de dire que l'élément fondamental, c'est le cadre et un espace dans lequel les jeunes se sentent bien. Et pour créer ce cadre, on fait appel aux jeunes en tant que tels. Et puis, nous, on est garant de ce cadre. Et donc, s'il y a des moqueries qui interviennent, il faut qu'on régule ça. C'est vraiment très important.
Oui, c'est ça. En régie, il y a Aurore qui me montrait qu'en fait, donc on avait parlé du décret 2012 qui disait que les vras étaient obligatoires en milieu scolaire et en fait, c'est dès la maternelle.
Dès la maternelle.
On s'était posé la question et du coup, on a la vérification. Donc, c'est dès la maternelle.
Merci pour cette précision, Aurore. Voilà. On va enchaîner avec un petit cours d'Evras musical sur le sexe masculin avec le zizi de Pierre Perret.
Afin de nous ôter nos complexes au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay, de l'appareil masculin d'abord au gay, elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y en a toutes les couleurs, au gué, au gué. Des boulangers jusqu'aux ramoneurs, au gué, au gué. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a le zizi tout propre du blanchisseur au gué, au gué. Celui qui a mis donne la main de ma sœur au gué, au gué. J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier, au gué, au gué, se reconnaît à son gros col roulé, au gué, au gué. J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace, magnifique au-dessus des grandes jorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit bedeau, au gué, au gué, qui sonne l'angélus, les mains dans le dos, au gué, au gué. Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons, et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi. J'ai vu le petit zizi des aristos, au gué, au gué, qui est toujours au bord de l'embargo, au gué, au gué. J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix. Avec un zizi aux mœurs incertaines, j'ai même fait des rites voix à l'ancienne. Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, 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 je vous dirai tout sur le zizi.
Toujours à l'écoute sur Radio Panique, c'est les jeunes radioactifs. C'était donc Pierre Perret avec le Zizi. Cette émission est donc consacrée à l'Evrasse. Alors je reviens vers nos deux invités pour rappel, Ardita et Chantal, toutes les deux d'un fort jeune Laken et qui font des animations Evrasse. Alors, des réactions sur la musique ?
Oui, moi ça me fait penser à un exercice qu'on fait communément avec les jeunes. Donc on leur demande, ça peut commencer avec des jeunes qui ont 12 ans, comme des plus âgés, et à un moment donné, on leur demande de dessiner le sexe masculin. Et ça ne pose pas trop de problèmes. Hein, en gros, le sexe masculin est dessiné. Par contre, quand on demande de dessiner le sexe féminin, là, franchement, on est face à beaucoup d'hésitation, le schéma n'est pas du tout complet, on ne retrouve pas les lèvres, on ne retrouve pas le vagin, et surtout, surtout, on ne retrouve pas le clitoris. Et donc,
ouais, et je veux aussi rajouter qu'ils n'osent même pas le dessiner, en fait.
Oui, ou ils ne le connaissent pas.
Oui, ouais, ça c'est sûr c'est qu'ils ne le connaissent pas, mais ils ont même peur d'essayer, je ne sais pas. Parce qu'en soi, on voit beaucoup dans les cours de récré, dans les couloirs, on voit souvent des zizi qui sont dessinés partout, mais des vulves, moi je n'en vois pas.
Et des clitoris,
et
non,
des
plus.
Clitoris non plus.
Et c'est devenu d'ailleurs une référence hein, dans des manifestations féministes ou dans des manifestations qui portent sur l'égalité homme-femme et sur le plaisir. Eh bien, régulièrement, on va dessiner, on va symboliser une forme de libération du corps de la femme en dessinant des clitoris.
Cette volonté de visibiliser aussi le corps de la femme et surtout le plaisir de la femme.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et donc voilà, au zizi, il faudrait... Bon, moi, j'aime bien le ton hein, de la chanson. Elle est sympa. C'est, voilà,
ouais,
c'est, on sort de la culpabilité, là, pour le coup. Et puis, on dit aussi... en fait, ça ne devrait pas s'appeler le zizi, mais les zizi, puisque Pierre Perret nous explique qu'il y a les gros, les beaux, les laids, les, tout ce que vous voulez. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on fait en animation. C'est présenter des planches aux jeunes pour leur dire, vous savez, il n'y a pas de normalité en la matière. Il y a plein de zizi différents. Il y a plein de phallus différents Et donc, vous ne devez pas avoir de problème avec ça. On fait la même chose aussi avec le sexe féminin. On présente des vulves tout à fait différentes, de couleurs différentes, avec une pilosité différente, avec des lèvres différentes, etc. Et donc, les jeunes peuvent voir que les corps peuvent être... ils ont des similitudes, certes, mais ils peuvent avoir de sérieuses différences. Et c'est bien.
Et c'est bien. Et donc, lors de ces animations, vous voyez le sexe masculin, le sexe féminin, mais également, donc, je vais me tourner vers toi, Ardita, qui anime souvent ces animations dans les écoles et chez les AMO. Est-ce qu'on va retrouver d'autres sujets, tels la santé sexuelle, comme par exemple le plaisir, le dépistage, la contraception, l'identité de genre, les orientations sexuelles, l'amour, etc. Quels sont les sujets que vous abordez exactement dans ces animations ?
Ben déjà, comme on donne des animations en primaire et en secondaire, il faut savoir qu'on adapte nos animations selon l'âge. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Mais par exemple, en primaire, on va plus s'axer sur tout ce qui est relations amoureuses. Si c'est par exemple en sixième primaire, ça va être l'âge où ils vont... c'est de l'adolescence, donc on va commencer à parler de puberté, de poils. Donc, on va plus, je dirais... aborder la dimension amoureuse avec eux. Et donc, on va aussi amener tout ce qui est la notion de consentement. Et pour ça, on a plusieurs outils. Ça, je vais y revenir par la suite, d'où notamment une vidéo. Et puis, avec tout ça, on va aussi aborder les sujets d'identité de genre et d'orientation sexuelle, parce qu'ils font souvent un lapsus entre les deux. Donc, c'est bien de vraiment voir la différence entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Ça, je vais le préciser aussi par la suite. Et donc, en secondaire, on va plus apporter, je dirais, la dimension sexuelle, dans le sens où on va plus parler de tout ce qui est cycle menstruel, donc la puberté aussi, comment se forme... comment change le corps au niveau féminin et masculin. Il y a donc les règles, les érections, les poils, et aussi de mettre aussi les bons mots, parce qu'ils disent souvent je leur demandais où se situait l'organe sexuel féminin ou masculin, ils me disent en bas. Ou comment le nommer, ils disent en bas, mais c'est quoi en bas? Et puis Chantal me disait c'est les pieds en bas. Voilà, donc c'est important de savoir nommer que le sexe féminin c'est une vulve qui n'est pas le vagin, parce qu'on fait souvent le lapsus entre les deux. Et aussi le pénis, parce qu'on peut croire que le pénis c'est tout simplement la hampe. Donc la partie en dessus, alors que le pénis c'est aussi avec les testicules en fait. Donc c'est bien de voir tout ça avec eux. Et ils ont souvent des questions sur comment est-ce qu'on fait les bébés, plus d'ordre, on va dire plus scientifique. Et du coup, comme je disais, il y aura la dimension un peu plus sexuelle. On va parler des premiers rapports aussi. Donc voilà. Et puis après, je pense, au fur et à mesure, donc vers la quatrième jusqu'à la sixième secondaire, ce sera plus... on va vraiment voir les planches anatomiques avec eux. Donc, on s'aide aussi, on a des corps 3D pour bien visualiser. Et aussi, on va mettre les bons termes aux bons endroits. Donc, on va bien définir avec eux je trouve plus mes mots. on va bien définir avec eux...
tous les éléments du
tous
corps.
Tous les éléments du corps, voilà, c'est aussi simple que ça. voilà. Et donc, comme je disais, on va aussi aborder tout ce qui est stéréotypes de genre. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure de la discussion. Donc, on a un canevas de départ. On va parler de plein de sujets, comme tu disais, l'amour, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la contraception. Donc, vraiment, on va parler de tout ça, mais c'est aussi eux, en posant des questions, qui vont amener certains sujets et on va plus développer certaines choses avec eux, en fait.
Oui. Et c'est justement ma prochaine question. Ouais. Donc, je reviens justement vers vous deux. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent lors de ces animations, les questions des jeunes?
Alors, moi, ce que je voudrais dire justement sur ces questions, c'est que, en fait, on travaille de manière extrêmement interactive. Et donc, on a dit que le climat, c'était très important. Mais par exemple, on a un chapeau avec toutes sortes de mots et dont une assertion « mon corps m'appartient ». et on demande aux jeunes de dire, tiens, ça te fait penser à quoi qu'est-ce que tu penses de cette assertion. Alors, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Hein. Ça peut être les mutilations sexuelles, ça peut être le fait de se faire tatouer, ça peut être la contraception. C'est vraiment des tas de questions. Mais ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il y a toujours aussi beaucoup de questions sur le relationnel. Je pense à... Enfin, il y a dernièrement deux séquences qui m'ont particulièrement touchée. L'une, c'était avec des jeunes qui avaient 12-13 ans. Et les garçons de cette classe-là, en particulier, dès qu'ils parlaient de relations aux femmes, ils étaient dans quelque chose, c'est comme si les relations aux femmes présentaient un danger majeur. Et donc, tout de suite, le couple, on leur avait demandé d'associer des mots. Face à amour, couple, etc., ils devaient mettre des mots en plus. Hein. Et ce qui venait, c'était suicide, peur, trahison, perte de contrôle. Et donc, c'est très important parce que si l'état d'esprit du jeune est celui-là, c'est important d'essayer de le décrisper sur la question. Alors, on peut pas et on ne veut pas faire des thérapies. Ce n'est pas notre rôle, évidemment. Et ces questions sont touchy. Mais quand même, d'avoir une parole et d'entendre d'autres jeunes leur parler autrement de ce que peuvent être les relations humaines, je trouve que c'est important. Je pense à une autre jeune fille, 17 ans, on parle du corps, etc. Elle a l'air très libre dans tout son discours. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que les discours sont un peu comme des millefeuilles, ou ce qu'on entend. Donc on peut avoir quelqu'un qui dit « j'ai le droit de m'habiller comme je veux, je fais ce que je veux », etc. Cette jeune femme disait ça. Et en même temps, à un moment donné, elle me fixe et elle me regarde et elle me dit « Est-ce que j'ai le droit de dire à mon futur mari que je ne veux pas tomber enceinte lors de la nuit de noces ?» Et donc là, on se dit « Ouf, on peut faire tous les discours qu'on veut. » Et c'est important hein, de parler de consentement parce qu'elle l'avait déjà entendu, ça l'avait interpellée. Mais elle était tellement axée sur qu'est-ce qui est légitime pour son futur époux qu'il n'y avait plus aucune place pour poser une question fondamentale qui est de savoir qu'est-ce qui est légitime et bon pour toi. Et donc ça, en termes de genre, d'égalité de genre, c'était extrêmement fort et émotionnellement, c'était fort aussi quand elle a pu prendre, enfin, qu'on a pu l'aider à mettre des mots sur le fait qu'elle aussi, elle existe.
Radita, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Moi, j'aimerais revenir quand même sur les lapsus qui font souvent... Quand on parle, par exemple, d'homosexualité, donc je leur demande ce que c'est. Et donc, souvent, ce qui ressort, c'est qu'ils disent... je leur demande, un homme qui aime un homme, par exemple, c'est quoi ? Et ils me disent, c'est un transsexuel. Mmh. Et ils confondent, en fait, transsexuel et homosexuel. Et homosexuel... Dans le sens, je ne sais pas d'où ça vient, ça exactement. Je pense qu'il y a ce côté où il y a le cliché de l'homosexuel qui est efféminé. Et du coup, pour eux, un homme qui aime un homme, c'est un homme qui se déguise en femme. Donc, je ne sais pas d'où vient ce lapsus, mais c'est vraiment... parce qu'on est deux en animation. Donc, on leur fait vraiment un schéma en disant qu'il faut bien faire la différence... entre l'orientation sexuelle, donc c'est l'attirance que tu as envers une personne. Donc il y a hétérosexualité, homosexualité, il y a la bisexualité, il y a la sexualité, la pansexualité aussi, que je n'oublie pas, et aussi la différence donc, avec l'identité de genre. Donc c'est comment on se définit dans son genre, parce qu'on peut avoir un genre. On a le genre qui est assigné à la naissance, homme ou femme, et puis après, on peut se sentir, ne pas se sentir en adéquation avec son genre. Donc c'est ça, c'est les personnes qu'on appelle transsexuelles, où ils ont vraiment un décalage entre le genre qui a été assigné à la naissance et comment ils se définissent, eux, dans ce genre-là. Parce qu'après, le terme de genre, on peut y revenir, mais c'est aussi un critère sociétal. Parce que c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme ? Comment est-ce qu'on le définit ? Est-ce qu'il y a vraiment un rôle assigné à le fait d'être une femme ou un homme ? Ou alors c'est quelque chose qui a été inscrits au fur et à mesure dans la société. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on parle aussi, enfin, on déconstruit tout ça.
Mmh. Oui, je voulais revenir sur la question de l'orientation. Oui, de l'orientation sexuelle en deux mots. Hein. Quand on travaille sur les stéréotypes, il y a par exemple une méthode qu'on utilise qui s'appelle le débat mouvant. Donc on dit aux jeunes, voilà, on va te faire des propositions selon que tu penses que c'est une fille qui dit ça, un garçon et une fille, ou simplement des garçons, tu te places dans l'espace. Et voilà, une des questions qu'on pose régulièrement, c'est « j'aime les poupées ». C'est les filles qui disent ça, c'est les garçons qui disent ça, ou c'est les deux ? Et donc là, on est en plein sur une question qui a trait à l'égalité de genre et aux stéréotypes de genre. Et souvent, qu'est-ce qu'on a comme... Pas toujours, hein, parce que les groupes peuvent être quand même très différents. Mais alors, on a la question de « ouais, bah, les garçons qui jouent avec les poupées, c'est des pédés ». Enfin, ce n'est même pas une question, c'est une assertion. Quoi. Et donc, la question de l'orientation sexuelle, elle vient percuter la question de l'égalité homme-femme. Elle vient toute seule. Je veux dire, ce n'est pas nous qui la posons. En règle générale, elle vient nous visiter à cause de ça. Alors, je voulais revenir sur autre chose aussi par rapport au corps. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ou un homme, en quelques mots, hein, un débat qui me passionne, mais qui passionne tout à fait les ados, c'est le body positive. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça ? Eh ben, c'est le fait qu'il n'y a pas qu'un seul type de corps qui est beau. Hein, les Barbie ou les Kent, etc. Voilà. Et donc, là, il y a une parole aussi qui se libère. Et il y a une souffrance derrière tout ça. Parce que pour les ados, c'est un moment de construction, d'identité particulier, et où on se lance vers la séduction, dans la séduction. Et bon, vérifier si on est séduisant ou pas, bah, c'est une fameuse affaire. Hein, c'est des enjeux intimes très importants. Et si on est convaincu qu'on a un corps pas adéquat, ben, c'est très problématique. Et donc, c'est libérateur. On fait ça, on a plein de photos qu'on leur montre avec, en expliquant ce qu'est le body positive mouvement et en leur montrant aussi des poils et des mannequins qui ont des poils en dessous des bras, oulala, et sur les jambes. Et alors là, c'est un déchaînement de passion. On entend souvent des garçons qui disent « mais c'est dégoûtant, c'est ouais, pas des femmes ».
J'avais entendu, c'est un tue-l'amour.
Ouais. Et alors, c'est assez amusant, parce que là, il y a un argument qu'on retourne et on voit bien que ça les chipote après. Ouais. C'est, ah tiens, tu m'as dit que l'homosexualité, c'est pas naturel, ou que c'est la nature qui a défini les rôles homme-femme. Et c'est très discutable. D'ailleurs, on essaye de déconstruire tout ça. Mais par contre, il y a une chose qui est en général pas discutable, c'est que beaucoup de femmes ont des poils sous les bras, sur les jambes, et que c'est la nature qui l'a fait comme ça. Et là, tout d'un coup, la nature ne te convient plus et tu dis que ce n'est pas propre, pas hygiénique. Pas... Et alors, on voit des visages comme ça qui se tendent. Et moi, je trouve ça passionnant. Hein. Et ils disent, merde, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Zut, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Qu'est-ce qu'on doit répondre ? Et là aussi, moi, ça me touche. On a des jeunes, je pense à une jeune femme hein, qui quand même était fort... fort en phase avec les stéréotypes de genre, hein, disant que c'était l'homme qui devait gagner la vie, sa vie et la vie de la famille, etc. Et sur les poils, elle s'est déchaînée en expliquant que les femmes pouvaient garder leurs poils et que rien ni personne n'avait le droit de leur dire ce que devait être leur corps. Voilà, c'est pour dire que tout ça, c'est complexe. Hein, et on ne sait pas pourquoi il y a des portes qui s'ouvrent et il y en a d'autres qui restent parfois hermétiquement fermées.
Effectivement, ça l'est. Mais donc, justement, comment vous êtes reçu lors de ces animations ? Est-ce que les jeunes sont demandeurs des animations, déjà ?
Alors, ça dépend un peu comment on les présente, peut-être. Hein. Quand on est dans un... Parce qu'on peut faire des cycles d'animation de 4 heures, de 6 heures, ou bien des cycles d'animation de 20 heures. On fait ça avec certains jeunes qui sont en technique d'animation. Et quand on leur dit, on va parler d'égalité homme-femme, il y a plein de visages qui se ferment. Et puis, quand ils voient, on leur dit, ben, on ne va pas vous dire ce que vous devez penser. Nous, on défend les valeurs d'égalité homme-femme, mais on va faire plein d'activités interactives. Et puis, on leur fait parler, en fait, avec ces activités, ils parlent de leur vie. Si on parle de harcèlement dans la rue, qu'on leur montre une vidéo sur le harcèlement dans la rue, eh ben, c'est des choses qui leur est arrivées. Si on leur fait ça, ça fonctionne aussi très bien. On leur fait jouer des scénettes qui ont trait au harcèlement de rue. Et les garçons endossent les rôles des filles et les filles endossent les rôles des garçons. Alors... Ça, c'est miraculeux parce qu'il y a des garçons qui disent, ils se font traiter dans le sketch de sale pute. Ils disent, mais c'est insupportable. Et en même temps, ils nous disent, mais ça, nom d'une pipe, je l'ai déjà entendu des milliers de fois. J'ai entendu des milliers de fois des filles me dire, c'est insupportable. Et je me disais, ouais, ça doit pas être fun, mais c'est pas si terrible. Et je le vis quelques secondes et c'est insupportable. Et à côté de ça, on voit aussi physiquement les filles jouant le rôle des garçons qui deviennent grands dans l'espace et les garçons qui se racrapotent. Donc voilà, il y a plein de techniques qu'on utilise pour faire ça de manière dynamique et pour susciter des questions et des doutes sur des certitudes qui sont parfois bien encombrantes.
Ouais. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'était... en fait, au départ, les réactions sont assez différentes et ça dépend aussi de la dynamique de groupe. Est-ce qu'ils étaient, au sein de leur cadre familial, par exemple, est-ce qu'ils arrivent à parler de ces sujets-là ou pas? Est-ce qu'il y a des tabous autour de ça? Évidemment, il y en a, mais il y a des sujets où c'est beaucoup, dans les familles où c'est beaucoup plus délicat, où la parole est totalement fermée. Et donc, on est là aussi pour amener ces sujets-là, pour pas qu'ils pensent comme nous, évidemment, mais pour ouvrir une parole. Donc au début, ils vont peut-être être fermés en disant « Mais de quoi vous nous parlez ici, l'égalité ?» Au fur et à mesure, donc on va amener avec nos outils d'animation, au fur et à mesure, ouvrir une porte pour qu'ils puissent, eux, se libérer leurs paroles. Et donc au fur et à mesure, on verra que il y a certaines personnes qui vont fermer les yeux ou quand ils vont regarder des vidéos ou alors on va leur dire certaines choses, ils vont boucher leurs oreilles en disant non, qu'est-ce que j'entends là? Mais qu'après la session suivante, ils vont commencer à plus parler ou alors au départ, il y a plus les garçons qui vont avoir plus de facilité à parler de sexualité, de leur corps, alors que les filles non. Et au fur et à mesure, on verra que les filles prennent aussi un peu plus de place. Donc c'est ça, notre rôle à nous, en tant qu'animateurs, c'est donc d'ouvrir la parole et aussi qu'il y ait un échange mixte, vu qu'on travaille dans les groupes mixtes, donc pour pas qu'ils se sentent jugés, pour qu'ils se sentent écoutés les uns les autres, tout ça dans le respect, et qu'ils apprennent ensemble. Donc voilà.
Wow, c'est très riche tout ça. On va donc faire une petite pause histoire de se reposer les méninges et de repartir de plus belle avec Depuis l'aube, de Carte Buccale.
Depuis l'aube de l'adolescence, qu'en naquirent les premiers émois qui firent chavirer mon enfance. Déjà, tu étais là. Pourquoi devrais-je faire silence? Pourquoi garder le secret? Nier jusqu'à ton existence, toi que l'on ne nomme jamais. Alors que des bas solitaires en aventures à quatre mains, tu me fis franchir des frontières, me fis aller toujours plus loin. J'explorais chaque latitude de mon intime géographie. Puis un jour, avec gratitude, je te revenais à l'anguille. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson. Mon clitoris posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse? Posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse? S'ils furent quelques-uns à connaître mon corps d'amour épanoui, bien peu d'entre eux, je dois l'admettre, t'emmenèrent au paradis. C'est qu'il faut une tendresse experte pour pouvoir t'apprivoiser. Celui-là qui devint ton maître vit toujours à mes côtés. Mais s'il arrive que la vieillesse me couche un jour seule dans son lit, si tout le monde me délaisse, toi tu me tiendras compagnie. Et quand la mort n'aura de cesse, que je lui emboîte le pas, alors, dans une ultime caresse, je te dirai adieu du doigt, mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posé telle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse, posé telle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse. Posée telle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse.
Donc c'était Quartier Buccal pour Depuis l'aube. Alors Ardita, Chantal, donc toujours deux animatrices Evras d'Inforjeune Laken, une réaction à vivre sur cette chanson?
Je vais peut-être rebondir sur ce qu'on... Donc on parle évidemment du clitoris lors des animations. Et donc au moment où on leur demande de dessiner le sexe féminin, par exemple, il y en a qui savent ce qu'est le clitoris. Mais ce qu'ils dessinent, c'est donc la vulve avec un petit point. Et donc je leur demande, donc c'est ça le clitoris? Ils me font oui, c'est la petite boule qui est juste là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite boule, c'est, on va dire, la partie extérieure du clitoris, alors que le clitoris, en réalité, c'est un organe, c'est donc l'organe du plaisir féminin, et il mesure en moyenne 10 cm. Donc c'est plus ou moins, quand on s'en rend compte, si on... Là, vous n'avez peut-être pas d'image, évidemment, mais en fait, on fait un parallèle entre le clitoris et le pénis, et en fait, on s'en rend compte que... il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Ils ont tous les deux un corps caverneux, un corps spongieux, le gland du clitoris, comme le gland du pénis. Et donc, c'est là qu'on s'en rend compte que physionomiquement, je ne sais pas si ça se dit ou pas, c'est la même chose, sauf que le pénis, il est extérieur, donc on le voit, alors que le clitoris, on ne le voit pas. Et donc, je pense que la première impression en 3D qu'on a fait du clitoris, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Non.
Et même dans les... avant, on cachait en fait le clitoris dans les manuels scolaires. Il n'y avait pas, donc le plaisir féminin, le désir et tout ça était totalement, pas caché, mais c'est comme s'il n'existait pas. Il n'y avait pas du tout de visibilité.
Ouais.
Ça là, c'est comme s'il n'avait pas existé.
Et même dans les manuels de biologie.
Ouais, c'est
exactement. Hallucinant. Mais c'est à partir du moment où, malheureusement, on s'est rendu compte que le plaisir féminin n'était pas indispensable à la reproduction de l'espèce que certains ont fait l'impasse sur le plaisir féminin. Et avec l'idée également, alors c'est intéressant ce que tu dis, Ardita, de comparer le sexe masculin et le clitoris, mais certains l'ont compris. Et ils ont voulu expurger le corps féminin de tout ce qu'il pourrait avoir de masculin. C'est aussi une des raisons qui est donnée pour justifier l'excision. Hein, c'est ça, le fait que n'ayant pas accès au même plaisir, mais la femme serait moins tentée. Et voilà. Or, on est confronté, et c'est parfois délicat. Donc, on sait qu'en Belgique, la deuxième communauté sub-africaine à être présente sur le territoire, c'est la communauté guinéenne.
Subsaharienne.
Subsaharienne, oui, qu'est-ce que j'ai raconté là? Pardon, subsaharienne, pas sub-africaine. Et donc, dans cette communauté, le taux, 97% des jeunes femmes sont excisées. Voilà. Et donc, effectivement, parfois, on a des jeunes guinéennes en classe et on parle du fait que de l'assertion « mon corps m'appartient », etc. Et il y a des tas de choses qui peuvent alors émerger, en ce compris, parfois, c'est très, très touchant sur un plan émotionnel parce que c'est les personnes auxquelles elles faisaient le plus confiance qui ont amené les petites filles, souvent, chez l'exciseuse. Et donc, il y a un déficit de confiance qui se marque dans des relations qui sont normalement des relations de confiance. Une tante, une mère qui vous amène et qui, en général, ne vous dit pas du tout ce qui va se passer. Et les enfants sont endimanchés, etc. Et voilà. Et ils tombent dans un traquenard. Et ça a beaucoup, beaucoup d'incidences sur ce qu'est la confiance dans une relation interpersonnelle. Et le consentement, n'en parlons pas. Mais je pense que ce n'est pas par hasard que le clitoris, même dans nos sociétés, disparaissait des représentations. C'est quelque part la même idée. Vous allez me dire que ce n'est pas du tout la même chose de couper un clitoris. C'est beaucoup plus cruel, violent. Mais il y a quand même cette idée de faire comme si le clitoris n'existait pas.
Ben, je vais enchaîner avec ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que les animations Evras permettent de déconstruire une société pleine de stéréotypes? Et je vais même aller plus loin, permettre d'aller vers une société plus inclusive. Ardita, peut-être, pour commencer.
Bah, en tout cas, parler d'Evras va permettre de se questionner sur la société dans laquelle on vit et d'y apporter, je dirais, un regard critique. Et donc déconstruire les stéréotypes véhiculés par la société va permettre entre autres de faire ses propres choix, donc les choix plus en conscience, et donc de ne pas suivre peut-être le schéma familial et ou alors une certaine norme imposée par la société. Mais donc pour moi l'Evras va vraiment permettre d'être acteur de son propre épanouissement. Voilà.
Oui, je pense que l'Evras, ça peut être libérateur pour tout le monde. Pas toujours, mais ça peut être libérateur aussi pour les garçons, dans le sens où beaucoup croient qu'ils sont responsables seuls de leur sexualité. Et que un homme, il est toujours plein de désirs et toujours plein d'érections. Ben non, la réalité, c'est pas celle-là. Et ça peut être intéressant d'être dans un cadre où on peut le rappeler. Alors aussi, sur les stéréotypes, tout à l'heure, ce qui pourrait être libératoire aussi, c'est que dans le couple, la contraception soit prise en charge par les deux. Alors, quelle que soit la formule, soit, par exemple, la femme prend la pilule, mais son partenaire intervient dans les frais financiers, c'est pas que sa responsabilité, ou alors, on alterne. À certains moments, c'est la femme qui prend un contraceptif ou des mesures contraceptives. Et à d'autres moments, c'est l'homme. Et il y a une mesure qui est très peu connue et qui a beaucoup fait rire nos étudiants parce qu'on leur a montré, c'est le slip thermique. Et donc, il existe un slip qui permet de remonter les testicules, de les amener à la chaleur du corps, de sorte qu'au bout de 3 mois, quand vous avez porté régulièrement ce slip, eh bien, en fait, l'homme, quelque part, est stérile pour un temps imparti. Évidemment, s'il enlève ce slip pendant un certain temps, après, il pourra recouvrir toutes ses facultés.
Ouais, il faut savoir qu'il faut être aussi suivi et faire, il me semble, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voir au niveau de ta fertilité, faire une spermatogenèse, il me semble, oui, je crois, au fur et à mesure, pour voir si c'est efficace. Donc, on le voit sur un graphique, au fur et à mesure, le taux de spermatozoïdes va diminuer jusqu'à être de plus être fertile, en fait. Oui. Donc, il faut un suivi régulier. Et je pense qu'à partir du moment où un homme va mettre le slip thermique, il faut attendre 3 mois pour qu'il ne soit plus fertile. Donc c'est aussi tout un processus et c'est important, évidemment, tu es en relation sexuelle, tu n'es pas tout seul, d'en parler avec ton partenaire ou ta partenaire, c'est un choix qui se fait, et c'est pas parce que tu prends un contraceptif à ce moment-là, peut-être que ça ne va pas te convenir, donc tu peux, il y a plusieurs alternatives, mais c'est important d'en parler, parce qu'on parle souvent de pilules où c'est souvent la femme qui va prendre en charge la contraception, alors que l'homme ne va pas se poser forcément la question. Et je pense que nous, on est là aussi pour informer qu'il y a d'autres contraceptifs. Il n'y a pas que la méthode hormonale comme la pilule. Il y a aussi les préservatifs, évidemment, mais il y a aussi donc, le slip thermique. Et il y a une autre alternative au slip thermique, je pense, c'est l'androswitch. Donc c'est aussi le même processus où on va faire remonter les testicules à l'intérieur du corps et on va laisser donc la peau du scrotum à l'extérieur. Et donc ce sera le même processus que le slip thermique au final. Donc. Et je pense que c'est très efficace comme contraceptif à 99%.
C'est très efficace et ça ne présente aucune contre-indication en termes de santé. Ouais. La difficulté de cette contraception, c'est l'imaginaire. Ouais. C'est vraiment quand on montre les slips, quand on montre ça. Et puis l'autre idée aussi, c'est oulala, est-ce que si j'utilise cette contraception-là, est-ce que je serai encore viril ? Ouais. Il y a toute cette imagerie, toute cette crainte derrière. Et donc, nous, on a réalisé, avec des comédiens du Magic Land, des clips tout à fait amusants sur la question, parce qu'on s'est dit que la première chose, ce n'était pas tant d'être informé. Oui, bien sûr, c'est important, parce que très peu de gens savent que ça existe, mais c'est surtout le travail sur les mentalités. Vraiment, je ne suis pas non viril parce que, ou pas viril parce que... je prends un contraceptif, je prends en charge ma contraception. Et d'ailleurs, ça vaudrait la peine de définir ce qu'est la virilité. C'est aussi un travail qu'on mène avec les jeunes.
C'est une question qu'on n'aura pas le temps d'aborder là tout de suite. Nous allons enchaîner.
C'est la thématique d'une autre émission.
Pourquoi pas, ça on peut tout à fait y penser. Mais pour le moment, on va surtout écouter Trio la première fois.
La première fois, des fois juste en claquant des doigts. La première fois qui se déclenche malgré soi. La première fois, toujours en évitant la file. La première fois qu'on voit ce que c'est qu'une fille.
La première fois, en escarpin ou en guenille. La première fois, celle qui apaise et qui vrille. La première fois, ça laisse un goût indélébile. Une première fois,
un peu comme sur le toit du monde.
Et malgré soi, s'attacher à quelques secondes. La première fois, et pourquoi pas une deuxième. La première fois que l'arbre découvre la sève et ça se voit.
L'enfant a découvert l'enfer.
C'est moi le roi,
livré aux caprices des reines.
La première fois, qu'elle fut courte, qu'elle fut brève. La première fois, blottie de silence.
Un cri.
La première fois.
Et puis bien d'autres se sont suivis.
La première fois, goutte de sueur sur le nez entre tes doigts. Une capote à retirer. La première fois,
une déception particulière.
La première fois
que l'on veut découvrir l'envers.
Une première fois qu'on fait en regardant le ciel. La première fois le corps...
Et c'était donc un rien écourté, mais c'était bien Trio la première fois. Et donc, c'était les jeunes radioactifs sur Radio Panique, émission, comme vous l'avez compris, consacrée à l'Evras. Nous avons reçu Chantal et Ardita d'Infor-Jeune-Laken, qui sont animatrices Evras. Merci Chantal, merci Ardita.
Merci à toi, Julien.
Merci à toi.
Merci à vous. Et voilà, merci à Aurore aussi, bien sûr, à la régie, qui nous fait coucou de
oui,
la main.
Oui, merci à vous aussi.
Et voilà. Et voilà, notre émission touche donc à sa fin. Donc, si tu veux plus d'infos, tu peux consulter notre site www.inforjeune.com. Tu peux nous contacter également par téléphone au 02 421 71 30. C'était la bande des jeunes radioactifs. On se donne rendez-vous l'année prochaine, le 26 janvier, pour de nouvelles aventures. Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission. Joyeux Noël et bonne année 2022. Ciao.
Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna
Navidad.